VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
À Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Crise au Zimbabwe, première apparition publique du président Robert Mugabe depuis le coup de force de l'armée. C'était aujourd'hui à l'occasion d'une cérémonie de remise de diplôme universitaire organisée à l'université Zimbabwe Open. Hier, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, dont l'éviction a provoqué le coup de force, est rentré d'après son entourage. M. Mnangagwa avait fui le Zimbabwe pour l'Afrique du Sud dans la foulée de son limogeage, mais avait promis de défier le président Mugabe et son épouse Grace, sa rivale, pour la succession à la magistrature suprême. Par ailleurs, l'armée a annoncé dans un communiqué publié aujourd'hui dans le journal d'État de Herald avoir arrêté plusieurs proches du président Mugabe. Les militaires se félicitent de ce qu'ils appellent les progrès significatifs accomplis dans leur opération de purge au sein du parti au pouvoir, la ZANU-PF. L'armée exhorte aussi le peuple à rester pacifique le temps qu'elle termine sa mission, souligne le communiqué. Lors des discussions hier entre le président Mugabe et le chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, le président Mugabe a refusé catégoriquement de démissionner. Dans cette impasse, l'on se pose une question, est-ce que les Zimbabwéens, les premiers concernés, parlent de coup d'État? Jacques Aristide a posé la question à John Stewart, directeur de NOVASC, une ONG de défense des droits de l'homme à Harare, qui a participé hier à Washington Forum sur VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Ici, on ne le voit pas comme coup d'État. En fait, les déclarations des militaires ici étaient très claires qu'ils n'interviendront pas dans la gouvernance du pays. Ils veulent une transition facilitée par les militaires. Il s'agit en fait plutôt de régler quelques comptes au sein du parti ZANU.
Robert Mugabe, retenu apparemment à son domicile, mais se porte bien d'après son ami, le président sud-africain Jacob Zuma. Les militaires, pour leur part, disent que Mugabe et sa famille sont sains et saufs. Mais dites-nous, John Stewart, que savez-vous du sort de Mugabe et de sa femme, Grace? Qu'est-ce qu'on est en train de dire en ce moment à Harare sur eux?
Mugabe a entretenu une rencontre avec les militaires à son bureau officiel au centre de Harare. Et donc, il est sorti de sa maison qui se trouve à 10 kilomètres au nord de la ville. Il semble être sain et sauf. On a vu des photos qui sont sorties par le journal principal du pays. Sa femme est toujours à Harare, bien qu'on a eu des rumeurs, et la ville est pleine de rumeurs, qu'elle était partie vers la Namibie. Mais il semble que c'est faux et elle est toujours à Harare.
Et dites-nous brièvement, dans les rues, comment réagissent les Zimbabwéens face à ce coup de force militaire?
Il n'y a pas eu des empêchements de quoi que ce soit, sauf que les bâtiments tels que le Parlement et quelques bureaux du gouvernement ont été contrôlés par les militaires, ainsi que l'aéroport. Mais les vols internationaux sont arrivés, les gens ont pu circuler sans problème, les banques étaient ouvertes, tout fonctionnait. En général, il y a très peu de gens qui agissent contre cette action des militaires. Les gens, en fait, plutôt se réjouissent de cette situation, bien qu'on est toujours dans l'incertitude.
John Stewart, directeur de NOVASC, une ONG de défense des droits de l'homme à Harare, au Zimbabwe. Au Kenya, la Cour suprême a achevé l'examen des deux recours visant à obtenir l'annulation de la présidentielle du 26 octobre, remportée par le président sortant Uhuru Kenyatta. Des précisions avec Anastasie Toudiech.
La Cour rendra son jugement lundi, date limite autorisée par la Constitution. Elle a examiné les recours déposés par un homme d'affaires et ancien député, ainsi que deux responsables d'ONG. Ils remettent en cause le manque d'indépendance de la commission électorale. Ils ont également rappelé que le président de cette commission, Wafula Chebukati, avait avoué son incapacité à garantir une élection équitable et dénoncé des interférences politiques avant de changer d'avis. La plus haute juridiction kényane avait créé la sensation le 1er septembre en invalidant le premier tour de la présidentielle du 8 août, remporté par M. Kenyatta. Un nouveau scrutin a eu lieu le 26 octobre, boycotté par son rival Raila Odinga. Si les six juges de la Cour suprême valident l'élection de M. Kenyatta, il sera investi le 28 novembre. Sinon, une troisième élection devra être organisée dans les 60 jours.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, un chef présumé de la milice Nkamuina Msapu a été arrêté dans une affaire de décapitation. Cette milice est impliquée dans les violences au Kasaï, selon Nyamulisa.
Ngalamulume Wangalamulume a été arrêté mardi. Pour l'instant, le présumé chef milicien est auditionné par la justice militaire. Il est soupçonné d'avoir ordonné la décapitation de 6 personnes chargées de superviser des épreuves du baccalauréat tombées dans une embuscade le 31 mai 2016. Malgré le versement d'une rançon par les autorités de la province du Kasaï central, ce chef milicien aurait ordonné la décapitation de 4 inspecteurs de l'enseignement, un conseiller du ministre provincial et leur chauffeur. Selon l'Église catholique, les violences entre forces de sécurité et la milice Kamuina Nsapu ont fait plus de 3000 morts depuis septembre 2016. L'ONU a dénombré plus de 80 fosses communes et enregistré 1,4 million de déplacés. 2 experts de l'ONU y ont été tués alors qu'ils enquêtaient sur ces violences. L'un de deux avait été décapité. Les violences ont commencé après la mort en août 2016 du chef coutumier Kamuina Nsapu, tué dans un assaut des forces de sécurité après s'être opposé au président Joseph Kabila.
Au Cameroun, un incendie d'origine indéterminée a ravagé la nuit dernière une partie de l'Assemblée nationale à Yaoundé. L'incendie s'est déclaré vers 21h et n'a été complètement maîtrisé que 6h plus tard, ce vendredi à l'aube. Les flammes ont ravagé 4 étages du bloc administratif, selon la télévision d'État CRTV. Mais l'hémicycle n'a pas été touché. Et il n'y a pas eu de victime. Les députés sont réunis depuis cette semaine en une session ordinaire pour voter le budget 2018. Afrique de l'Ouest maintenant, la lutte contre les djihadistes au Sahel, le G5 Sahel manque de financement. Cette force conjointe du Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Niger et Tchad a besoin de 423 millions d'euros annuel pour fonctionner. À ce jour, un quart seulement des fonds a été réuni pour permettre à ces 5 pays de barrer la route au terrorisme. Nicolas Pineau a reçu Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères.
Nous attendons des engagements assez forts de la part des États-Unis sur le plan commercial, sur le plan économique, dans sa relation en tout cas avec l'Afrique. Pas seulement qu'on se réunisse juste pour faire des grands shows, pour réfléchir, pour parler et autres. Il faut qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises par les États-Unis en vue d'améliorer la relation avec l'Afrique. On a besoin que l'Amérique se montre beaucoup plus présente.
Est-ce que l'aide américaine de 60 millions d'euros annoncée lors de la dernière réunion au Conseil de sécurité de l'ONU à New York est une bonne chose?
C'est un geste fort, surtout que le début n'a pas été facile dans les discussions entre nous et les Américains. On a fini par s'entendre, même si les choses ne sont pas dans le sens que nous avons souhaité. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une évolution qui a été faite par les États-Unis avec cette annonce de 60 millions, mais d'aide bilatérale. Ça veut dire qu'il y a encore des doutes qui subsistent sur la force du G5. Aucune armée prise individuellement ne peut arriver au bout de ce fléau. Comme vous le savez, l'amunissement est au Mali, mais elle n'arrive pas à nous protéger. Le Burkina a par exemple jusqu'à 1760 hommes là-bas au Mali, mais nous sommes tout le temps attaqués. C'est pourquoi la force du G5 apparaît comme un bon complément, parce que ce n'est pas les Nations Unies qui vont venir combattre à Ouaigouya, à Djibo et autres, ou à Tillabéri côté nigérien. Parce que si on ne règle pas le problème au niveau de nos pays, ce terrorisme-là va se propager partout, dans toute l'Afrique de l'Ouest et partout dans le monde.
On annonce que cette force du G5 Sahel sera pleinement opérationnelle au premier semestre 2018. À combien évalue-t-on les besoins de financement de cette force?
Le besoin qui a été estimé par nos armées, le commandement de la force du G5, est de environ 500 millions de dollars. Et à ce jour, nous avons réuni environ 108 millions d'euros. Et ce que l'Amérique a donné, comme c'est une aide bilatérale, ce n'est pas comptabilisé dans ce besoin. Et c'est pourquoi la réunion de Bruxelles est quelque chose d'assez important pour nous. C'est une étape majeure, puisque c'est là que nous espérons pouvoir boucler le budget.
Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères. Et pour terminer, ici aux États-Unis, le Congrès américain a adopté un budget de près de 700 milliards de dollars pour les dépenses militaires pour l'année fiscale 2018, un montant qui dépasse de 26 milliards le budget réclamé par la Maison-Blanche. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.